Roman et Marceau.
Denis Gravel est en studio. Il a de l'air en forme.
Top shape.
Tu viens-tu d'apprendre que ta maison va avoir une hausse de 11 % cette année si tu es dans la région de Québec?
Je viens de comprendre pourquoi il y a autant de courtiers qui m'ont souhaité joyeux Noël dans une carte, par exemple. J'avais la boîte à mal remplie. Quand le service des postes a repris, là, j'avais 6 courtiers que je connais pas qui me souhaitaient joyeux Noël d'une belle carte. Puis, hey, by the way, si tu penses vendre dans la prochaine année, là, oublie-nous pas.
J'ai deux questions. Est-ce qu'on les voit avec leur famille?
Non.
Comme les politiciens, puis l'autre, est-ce qu'il y avait leur face tout simplement sur la carte?
Il y en avait.
À la fin de décembre 2024, donc il y a de ça quelques jours, le prix médian d'une propriété a augmenté de 11,3% pour s'établir à 400 600. Je pense à mes enfants, là, puis je me dis comment ils vont faire pour s'acheter une maison.
On a commencé à échanger là-dessus avant que les micros ouvrent, puis ce que je te disais, c'est que je sais pas s'ils vont avoir encore ça comme objectif d'avoir une maison, mais ils vont être de moins en moins nombreux à pouvoir le faire à Québec. Puis ceux qui vont vouloir le faire, puis qui ont des revenus modestes, il va rester rien qu'une alternative, Yannick, c'est de retourner en région. C'est d'abandonner Québec pour dire « moi, je m'en vais me faire une vie, je sais pas, au Saguenay, en Beauce, va falloir s'éloigner des grands centres parce que plus ça va, plus c'est hors de prix. » Puis moi, je fais partie de la génération des chanceux qui, sur une fenêtre de 5 ans, ont eu vraiment de belles opportunités pour acheter leur première maison. Puis on a vraiment été chanceux par rapport, mettons, à la génération à Pascal, la génération à Audrey, tu sais, qui sont peut-être rendus là à avoir une réflexion. « Hey, j'achèterais ma première maison en couple ou je m'achète une maison solo. » Moi, j'avais acheté une petite maison solo. C'était un minuscule chalet. Il était pas cher. Mais 5 ans plus tard, je pouvais plus le faire, ça. On a vraiment eu une petite fenêtre d'opportunité avant justement que l'évaluation foncière explose sous le règne Labeaume. Hein? C'est arrivé en 2011 ou 2012, si je me souviens bien. Et là, on vit la même chose, mais là, c'est par-dessus. Puis quand tu trouves une maison à ton goût, tu vois qu'elle est très chère, tu fais une offre quand même... Et tu réalises que tu es le 47e dans une file de 82.
C'est ce qui tue le plus.
Le marché est complètement débile.
C'est vraiment ce qui le tue le plus parce que, bien que ce soit extrêmement cher, si jamais tu as eu l'opportunité dans ta vie avec certains emplois ou des conditions X d'en mettre un peu de côté, puis t'as, mettons, un fonds là, pour t'en acheter une, tu rivaliseras jamais contre le nombre de personnes qui sont capables de bêter au-delà des prix faramineux de ces maisons-là.
Fait que, tu sais, les milieux de vie vont prendre de la valeur. Là. Ce que les promoteurs sont en train de bâtir, les frères Trudel, ça va devenir vendeur, je pense, pour beaucoup de jeunes couples, de jeunes familles, de dire « on n'aura pas notre terrain, mais on va avoir un beau terrain communautaire ou un beau terrain de secteur ou de quartier. On va faire notre magasinage au centre d'achat, au rez-de-chaussée. On va pouvoir marcher jusqu'au centre Vidéotron. Je pense que cette option-là va prendre de la valeur parce que plus ça va, plus les maisons sont complètement hors de prix.
En région aussi, en passant.
Moi, j'ai grandi au centre-ville de Québec. Là. C'est pas l'idéal là, pour une famille.
C'est sûr que non. Je te crois.
T'as stationné, c'est un aria.
Tu sais que c'est mon rêve.
Oui.
Mon rêve de retraite.
Sauf que quand t'es plus vieux, c'est correct. Quand t'es un enfant, je veux dire, t'as pas de. Tu sors dehors, tu descends la marche de béton, puis après ça, c'est le trottoir des passants. Mm-hmm. Puis après ça, c'est la rue. Puis après ça, des véhicules qui sont là. Puis là, faut que tu te promènes un peu pour aller jusqu'au parc, puis là, le parc est-il disponible pour toi ou il est disponible pour les toxicomanes ou les gens qui décident d'habiter là pendant les prochaines semaines, les prochains mois?
C'est pas évident.
C'est un aria, tu sais, c'est pas le rêve de tout le monde là, d'habiter au centre-ville de Québec avec la famille. J'ai hâte de voir ce que les frères Trudel vont faire. J'ai pas vu le projet dans son ensemble. Peut-être qu'effectivement, pour des petites familles, ça pourrait être une opportunité. Mais moi, mon rêve, c'était d'avoir un lopin de terre pour que mes enfants puissent s'amuser dehors en toute quiétude, puis que le chien s'amuse au travers de ça. La belle vie, est-ce
que... Tu sais que c'est un rêve qui est de moins en moins répandu. J'ai vu des chiffres passer dans la dernière année, puis je me souviens plus avec qui on a parlé de ça. C'est-tu avec Alex Leblon, c'est-tu avec Francis Gosselin, mais ce rêve-là d'accès à la propriété chez la jeune génération, il est de moins en moins répandu. Sais-tu pour des raisons financières? Sais-tu que ça fait moins partie de leurs objectifs de vie? Je le sais pas.
Ouais, c'est-tu une obligation de plus rêver à ça?
Parce que nous autres, on rêvait tout à ça, notre génération. Là, ce que tu viens d'expliquer, la belle vie, le lopin de terre, le petit bout à nous autres. On voulait toutes devenir des banlieusards avec de l'espace à tondre, tu sais, un beau parc pas loin, puis tout ça. Mais est-ce que la nouvelle génération, ça fait autant partie de leurs objectifs? Ça a de l'air que non.
Bien, les auditeurs qui nous écrivent, des courtiers aussi, qui mentionnent qu'il y a encore des jeunes de 20-21 ans qui sont dégourdis, qui ont commencé très tôt à se mettre de l'argent de côté.
Hey, bravo de le faire à cet âge-là.
Mais c'est pas une majorité.
C'est sûr.
Moi, je l'ai fait différemment. Moi, j'ai acheté un chalet à Shannon qui valait absolument rien, les raboudiner un peu. Puis là, j'ai des chums qui ont dit « Yann, on aimerait ça aller habiter en ville sur le bord de la rue Cartier. » Quelle mauvaise idée! J'arrive! fait que j'ai vendu ça. Ça m'a donné un certain montant d'argent.
Ouais.
Puis j'ai pas touché à ça. J'ai mis ça de côté. Puis après ça, j'ai racheté à Lévis. Puis après ça, j'ai revendu. Puis là, j'ai racheté, j'ai revendu. Puis là, j'ai racheté. J'ai pas encore revendu. Mais j'ai commencé très jeune. Fait que les jeunes qui commencent là à 20 ans à s'acheter des duplex ou des triplex, soit dit en passant, vous pouvez, Pascal pourrait le faire, peut toujours passer par les SCHL. Donc, c'est un 5% de cash down. Fait que c'est quand même un bon montant sur une maison de 400 000. Là.
Oui.
C'est un 20 000
$. Mm-hmm.
Puis à ça, ben, on dit 5 % mais assure-toi plus d'avoir 8 % parce que tu vas avoir la taxe de « Salut, dans ma ville!
Ben » oui.
On est tellement contents de vous avoir.
Voici la taxe de bienvenue qu'on n'appelle plus comme ça. Mais c'est un bon montant à mettre. Mais avec la SCHL, tu peux faire quand même ton bout. Mais une fille qui habite seule ou un gars qui habite seul, qui n'a pas commencé avant, ça doit être raide en tabarouette.
Puis là, ben, tu sais, il y en a qui, sur plusieurs années, vont rembourser leurs frais d'études aussi. C'est pas là que tu économises pour faire autre chose. Souvent, la période d'ouverture, la première période d'ouverture que tu as dans une vie, en tout cas, moi, personnellement, c'est ce qui est arrivé. À partir du moment où tu finis de rembourser tes études, ben là, tu te ramasses peut-être avec une marge de manœuvre pour considérer peut-être avoir ta première maison, ta première propriété.
Faire les deux en même temps, je te dirais, c'est la solution, en fait. Mais tu sais, tu vas le rembourser moins vite, là.
C'est ça, c'est ça.
Tu sais, je pense honnêtement, l'erreur, moi, que j'ai faite, c'est que j'attendais de le faire à deux, dans vie. À l'époque, quand j'étais avec mon copain de 10 ans, lui, il était encore aux études, puis il était en droit, puis il travaillait avec une job professionnelle, mais à la fin, tu sais, il n'y avait pas le temps, puis il n'y avait pas cet investissement-là à mettre, puis lui, il avait eu des dettes d'études avec le barreau, avec X, Y, Z. Fait qu'on est. Moi, je voulais pas le faire ça, je voulais le faire en projet de couple, puis je voulais pas y arriver en disant, ben tu me dois tant dans quelques années quand ça a pris de la valeur, ou je voulais pas y faire payer un loyer, tu sais. C'est... Je trouvais ça bizarre. Puis après, ben j'ai attendu, j'aurais dû le faire à ce moment-là. Quand moi, j'ai quitté ce couple, c'est là que j'aurais dû acheter toute seule, mais je me disais, crime, c'est un beau projet à deux. Je pense que ça, c'est à ne plus faire.
Mais c'est le step que bien des gens renoncent à faire maintenant parce que tu as une tendance à la hausse aussi. C'est des gens qui ont leur petit condo, qui ont leur petit appart avec leurs enfants, sont en couple avec quelqu'un d'autre qui a son petit condo, son petit appart puis ses enfants. Puis chacun reste de son bord parce qu'on hésite à sauter dans plus grand. Puis
là, je suis rendue avec mon biscuit chinois qui me dit que j'ai besoin de solitude parfois. Fait que je me dis, crime, j'aurais été bien, moi, dans mon chez-moi, puis l'autre chez lui.
Non, mais ça fait réfléchir aussi parce que ça a ses avantages, entre autres, quand les enfants ont leurs habitudes, leur milieu de vie, leur école,
absolument,
et ainsi de suite. Toi, tu as réussi à te payer ça, puis tu dis, la journée où ça marche pas, ben tabarnouche, moi, de mon côté, je perds rien ou à peu près rien. Il y a des côtés intéressants à ça, mais je pense que c'est la nécessité, l'obligation économique qui a fait en sorte qu'on a commencé à réfléchir à des pactes comme ça au lieu de dire « Hey, on ramasse tout puis on s'en va d'une maison. » C'est juste trop cher.
Là, je vais paraître peut-être sans cœur, mais
juste aujourd'hui,
chaque fois que mes gars prennent un an, je leur dis « Il te reste 7 ans. » Là, il y a eu 12 ans, il y a eu 11 ans, ça veut dire qu'il reste 7 ans. Là, il dit, 7 ans, pourquoi, papa? Ben pour aller vivre en appartement, vivre ta vie. Laisser papa revivre comme il vivait autrefois. Puis je disais, on va faire à mon plus vieux, mais là, j'ai l'impression qu'on va devenir un peu plus à l'européenne dans les prochaines décennies.
C'est-à-dire pour plusieurs raisons, d'ailleurs.
Des maisons où le père est là, les enfants sont là, les enfants des enfants sont là, on habite tout le monde ensemble. Ça va être des maisons multigénérationnelles.
Parce qu'on n'aura pas le choix.
Ça me tente pas.
Non, moi non plus, pour être très honnête.
J'ai 7 mes enfants. Mais ma belle-fille, regarde, elle viendra faire son tour le dimanche, mais après ça, tu retournes chez vous, belle-fille.
Moi, j'ai un pacte avec mes enfants qui ressemble un petit peu au tien, puis je pense que je vous l'ai déjà dit. Moi, à partir du moment où le plus jeune a 18 ans, il y a un choix à faire.
Oh.
Vous partez ou moi, je pars. C'est un des deux.
Sérieux, les gars, vous êtes sérieux ou quand ça va s'approcher puis que le nombre d'années va diminuer?
On fait des jokes.
Vous allez, parce que moi, si...
Tu fais des jokes, toi?
Je t'ai encouragé à être Tanguy. Puis ça a été rien de ça. À 16 ans, j'ai quitté parce que j'avais à étudier dans une autre ville. Mais si j'avais quitté la maison à un âge où j'avais pas besoin, mettons, je serais allée au Cégep Limoilou ou à Garneau ou autre, là... Je perdais tout droit d'entraide dans le paiement de mes études personnelles parce que je faisais des mauvais choix. Pour ma famille, ça aurait été un mauvais choix de quitter le nid familial. Il aurait dit, ben, si tu as le droit de te payer un appartement puis tu as la possibilité de te payer un appartement financièrement, tu peux payer tes études. C'est une façon qu'on mette plus d'argent de côté en restant à la maison, okay. un peu particulière, mais sa vision, c'était ça, c'était mettez le plus possible de côté pendant que vous pouvez puis que vous n'avez rien à payer au niveau maison. Je pense que j'aurais pu être tanguée jusqu'à mes 25 ans.
Moi, c'est plus pour les pousser vers l'autonomie, c'est-à-dire quand tu vas avoir 18 ans, il va falloir que tu vives de tes propres ailes. Fait que c'est pour ça que je les motive comme ça. Je ne suis pas sûr que c'est la meilleure façon de les motiver.
J'ai hâte que tu sacs ton cœur.
Tu comprends que s'ils quittent vraiment à 18 ans, ça va m'arracher le cœur. Ben ça voyons, va tous nous sûr, arracher hein. le cœur. Mais la job d'un père, c'est de montrer à ses enfants à être le plus autonome possible puis de leur faire des petites jokes comme ça une fois de temps en temps. Je pense que c'est sain. Là. C'est sûr que moi, j'ai commencé quand il y avait 6 mois. Fait que c'était peut-être un peu plus ordinaire pour la mère de mes enfants.
Tu parlais à Bédène.
J'ai hâte que tu t'en ailles.
Un coup sorti, tu sors dans pas long aussi. Là.
Pour qu'après ça, moi puis maman, on revive notre vie.
On a toute la passe aussi à 12-13 ans que si on pouvait, on quitterait la maison. Là.
Ouais.
Ah, j'ai hâte de m'en aller. Ouais. Parce que là,
le mien, il a fait ses valises à 3 ans. Moi.
À 3 ans?
Au complet. Okay. Ouais. Il a fait ses valises.
Il a fait son bagage.
C'est ça. Puis je le suivais. Il a réussi à monter à la côte. Non. Après ça, il s'est reviré. C'est Isaac, le
c'est
plus jeune.
C'est tellement bon.
Puis après ça, il s'est reviré puis il est revenu. Il ne m'a pas parlé pendant un gros 5 minutes. Puis après ça, il est venu s'asseoir à côté de moi pour ne parler.
Il est allé jusque dans la rue avec son bagage.
Ouais,
ouais. Oh, Saint, c'est drôle.
Quand je suis parti rester en appartement à 16 ans, pour prendre le cégep à Jonquière.
Toi aussi, c'était parti ça? Jeune,
oui. Oui, oui, moi, je suis parti jeune. J'avais le choix. Mes parents restaient à Saint-Fulgence. Oh, c'était
si, un
faire une heure et quart de route à tous les jours, aller-retour. Mais non, j'avais le goût de... Puis j'étais fier de moi. Parce que j'étais un gars qui était très lambineux, qui n'était jamais à ses affaires. Puis c'était comme un défi pour moi d'aller me tester puis dire « Hey, je suis assez autonome pour vivre tout seul, me faire à manger, continuer mes études, continuer d'avoir mes notes, puis ainsi de suite. »
La réponse a été non, Denis.
La réponse a été oui, ça a quand même bien été. Mais moi, dans tout ce processus-là, très égoïste, centré sur moi-même, je comprenais pas pourquoi ma mère pleurait. Parce que ma mère pleurait à chaudes larmes quand elle est venue me porter à l'appartement. Puis, ah, excuse-moi, je suis émotive. Ben oui, mais pourquoi c'est juste du bon? Je veux dire, je m'en vais, je vole de mes propres ailes. Ton grand flamou va être autonome ou à tout le moins va essayer de l'être. Avec du recul et des enfants, maintenant, je comprends. Puis je sais, je vais brailler comme une vache.
Ton aussi, plus jeune, tu sais, ça veut dire que là, la maison est finie. 88-971-102, à quel âge vous avez quitté la maison et pourquoi?
François Legault a quitté à 36 ans. J'ai tombé à terre.
C'est vrai, ça?
C'est la même. Ces gars ont 30 ans, ils restent encore chez le père.
Ouais?
Ouais. Puis quand lui est parti, il était rendu multimillionnaire.
C'était le temps?
Mais c'est une belle chance. Là.
Ouais, non. C'est, je
moi, j'ai adoré
pas
mon
chance-là.
Autonomie.
Non, moi non plus.
J'ai adoré mon autonomie. Puis...
On fait des jokes pour le 18, là, mais 36, on rit plus personne.
Mais non, mais 36, parce que là, c'est parce qu'on met un individu dans la barque, là, parce que je pourrais dire.
Non, mais lui, il l'avait mentionné. J'aurais...
Ben oui, mais tu trouves-tu une blonde, toi? T'es encore chez tes parents à 36, ça me fait capoter à 27.
Ouais.
Tu sais, mais c'est un jugement. Là, on est dans le jugement.
Oui.
Tu comprends?
Oh oui.
Mais reprendre, tu sais, si j'avais pas eu Jonquière, puis j'avais fait mon parcours scolaire, je pense qu'au moins jusqu'à 25, parce qu'à la fin, moi, mes parents étaient séparés. Hein.
Parti à quel âge?
16 aussi, 16 pour Jonquière. Je suis jamais revenue. J'ai travaillé à Lac-Mégantic, Montréal. J'ai eu un genre de 5 mois, je pense, où je travaillais chez
là,
mon père.
J'ai connu Pascal.
Oui, il s'en souvient. Ah, dans ce temps-là, il m'aimait.
Avec ses lunettes fumées, il était sur un bateau.
C'est révolu tout ce temps-là.
On, ben, regardait, on a regardé les nageurs traverser le lac Mégantic.
Depuis que j'ai parlé, il m'haït.
Après ça, elle a dit « J'haïs les conservateurs! »
Ça a fini là. Oh,
j'ai jamais dit ça.
Non, on y a... Hey, parlez-moi de la composition d'un conseil d'établissement scolaire. Savez-vous c'est quoi un conseil d'établissement scolaire?
J'adore ça, c'est la maison des fous.
C'est des gens qui se réunissent ensemble puis qui parlent des trucs de leur école.
Ouais.
Okay? Puis dans ce conseil d'établissement scolaire-là, là, je suis allé chercher la fiche thématique du gouvernement du Québec, fait que je ne me trompe pas. Normalement, il y a à peu près 20 membres.
Mm-hmm.
Dans ces 20 membres-là, il y a 8 parents, il y a 5 membres du personnel enseignant, il y a une personne en psychoéducation, un psychologue, un technicien loisir, 2 élèves du deuxième cycle et 2 personnes du deuxième cycle et 2 personnes de la communauté.
Des représentants d'un peu tous ceux qui sont impliqués de près ou de loin.
C'est ça. Moi, je ne savais pas c'était quoi un conseil d'établissement. Je me
quelqu'un
disais,
nous dit, est-ce que c'était autrefois un comité de parents, Yannick? Point d'interrogation.
Ça pouvait peut-être s'appeler effectivement un comité de parents, mais là, il y a des spécialistes qui se sont greffés, fait qu'ils appellent ça des conseils d'établissement. Pourquoi je vous parle de ça? C'est qu'il y a un conseil d'établissement à l'école de Charlevoix qui vont interdire officiellement l'accès au sport à certains de ces étudiants qui sont hyper performant à l'école.
C'est d'un crétinisme et d'une idiotie indigne d'une société comme le Québec.
Donc, les élèves du secondaire, donc entre le quatrième secondaire et le cinquième secondaire, qui sont à l'école du plateau de la Malbaie, qui sont inscrits en mathématiques et en sciences fortes, donc sciences enrichies, vont se voir officiellement interdire le droit de participer à des programmes de concentration sportive et culturelle à partir de l'an prochain.
Je sais très bien ce que c'est. À la polyvalente Charles Gravel, on a eu le même choix cruel à faire à partir du moment où tu sélectionnais tes maths fortes parce qu'on faisait partie des premiers programmes sport-études de hockey. Okay? Et la seule façon de réussir à cumuler les heures de hockey pour que ça vale la peine, c'était de prendre les maths moins fortes. Ce qui fait en sorte que moi, j'ai des amis qui ont dû faire un choix cruel à une période de vie où normalement, on est encore dans le mode un esprit sain dans un corps sain.
Exact.
Si tu excelles dans tes études puis que tu excelles dans le sport, pourquoi tu continuerais pas les deux?
T'es ultra-man, Cibois. T'es ultra-girl.
tu vas pénaliser les meilleurs d'entre nous.
C'est l'élite.
Et l'autre chose, puis c'est très bien expliqué par des parents qui vivent actuellement le dilemme parce que la décision est prise dans cette école-là.
Ouais.
J'aimerais beaucoup parler aux gens qui ont le jugement d'épis de blé d'Inde de demander à des jeunes de renoncer au sport d'élite pour continuer leur éducation d'élite. Aller expliquer ça aux gens qui étudient et qui jouent pour les Remparts ou pour le Rouge et Or de l'Université Laval, je veux dire, c'est fucking stupide.
Allez dire ça à Laurent Duvernay-Tardif.
Ben oui, ben oui, hey, choisis. Ben là...
Au lieu de pousser ces jeunes-là à être excellents dans tout et être capables de patauger dans plein de choses, on a décidé de niveler vers le bas dans la médiocratie la plus sincère.
Puis, un Laurent, donc ce que je comprends, ce que vous m'expliquez, c'est qu'un Laurent Duvernay-Tardif à Charlevoix aurait jamais fait la NFL.
C'était un ou l'autre. Il devenait docteur ou il jouait dans la NFL, mais il faisait pas les deux.
Puis lui, il a fait les deux. Ben, tu pourrais pas parler avec la présidente du conseil d'établissement, sais-tu pourquoi?
À démissionner.
Elle se nomme Isabelle Bolduc, je la salue. Elle a carrément remis sa démission à la suite de la décision qui a été prise en raison d'un conflit de valeurs. Elle s'entend pas du tout avec les gens qui ont décidé ça.
Une mère raconte que son jeune... la motivation de ses études, il la retrouve dans le sport. Mmh. Puis moi, ça m'a... Écoute, je suis venu aux larmes un matin en lisant ça parce que je commence à vivre la même chose avec mon plus grand. Je constate que j'ai trouvé le gaz pour le motiver à l'école. C'est le sport. C'est le hockey. C'est la possibilité de manquer un après-midi pour aller dans un tournoi.
Ça le motive. Tu lui dis que s'il veut manquer cet après-midi-là, maintenant, il faut qu'il y ait des bonnes notes.
Ben oui, c'est ça qui parce, que les, ce que... parce que les deux vont ensemble. Puis j'ai tout basé sa structure de réflexion là-dessus, de dire, ben plus tard, si tu veux faire partie de l'équipe de hockey de l'école puis représenter ton école, si tu veux faire partie de l'équipe de football, de l'équipe de soccer, faut que tes notes soient solides. Sans ça, ça ne marchera pas. Si tu te rends encore plus loin... On va toujours te demander la même chose. On demande aux joueurs du Rouge et Or de performer au niveau scolaire. On demande la même chose aux joueurs des Remparts. Les jeunes, j'allais dire garçons, c'est peut-être un préjugé, mais je pense que beaucoup de jeunes gars se motivent à l'école via le sport, via la récompense sportive, via l'alternative sportive. Puis je pense que leur cerveau fonctionne mieux aussi quand ils sont stimulés physiquement. Oui. Par le sport, tu sais.
Beaucoup de pédopsychiatres disent que ça, c'est aussi une clé pour tous les, tu sais, les turbulents. Là, on parlera pas de TDA puis tout ça, là, mais tous des jeunes qui ont besoin de se dépenser. Une fois arrivés dans la salle de cours, après avoir bougé ou avoir eu essentiellement assez de sport dans leur semaine, ont une capacité beaucoup plus élevée à absorber l'information.
Ah, je crois à ça beaucoup.
À être calme, être concentré. Puis quand je lisais le texte, je me suis posé une question parce que je me souviens... Dans mon programme au secondaire, là, c'était le PEI, programme d'études internationales, puis il y avait des matières obligatoires. Puis en secondaire 5, on devait faire des choix. Mettons, chimie, physique, c'était des options, mais on devait quand même en prendre une avec nos maths, que ce soit les... Tu sais, il y avait 3 degrés.
L'autre, c'était 4,36 et 5,36.
C'est ça.
Dans le temps, c'était ça. Nous autres, c'était CST, je me... SN, puis en tout cas... ST, il y en avait 3. Puis aussitôt que tu prenais chimie, physique, maths fortes, il te restait plus de cases horaires pour t'ajouter, mettons, hors plastique et ou hors dramatique. Puis moi, je me souviens, ça m'avait fait de quoi? De lâcher ça qui était une soupape personnelle, là, d'aller en hors plastique ou en hors dramatique. Puis j'avais pas de place dans mon horaire. Fait que je me suis même demandé, c'est-tu ça, l'histoire? Il manque-tu une information? Mais on dirait même pas que c'est ça.
J'ai eu la chance d'avoir un cours de journalisme en secondaire 5. OK? Parce qu'on faisait le petit journal, ça s'appelait le Gravillon, puis tu avais un professeur rigoureux, détestable.
Gravel
parce
au Gravillon.
Que exigeant. Oui, oui.
C'était épouvantable.
Le professeur en question s'appelait, il est décédé, s'appelait Martin Tremblay, puis lui, il écrivait dans le quotidien régulièrement. C'était un vrai journaliste de formation.
Ça, ouais. C'était une option que tu avais, mettons.
C'était une option. C'était une option que tu pouvais prendre. Puis cette option-là faisait en sorte que j'avais des entrevues à aller réaliser, puis il fallait que je sorte une fois de temps en temps. Fallait que je manque un cours de français pour aller interviewer le député bloquiste Gilbert Filion, père de Jean-François.
On se demande pourquoi tu as pris cette option-là tout à coup.
Mais non, mais moi, ça me motivait. Puis mes profs m'avaient averti. Denis, tu sors quand tu veux, mais il faut que les résultats soient là. Si tu manques une heure de maths, ben organise-toi pour la rattraper ailleurs. Pourquoi on ne fait pas ça avec des élèves qui sont excellents, qui excellent dans de multiples disciplines, de dire, garde, prends ton programme de maths forte, continue à jouer au hockey, puis si après deux mois, ça marche pas, on va se rasseoir.
Exactement.
Mais tabarnouche, donne-le la chance,
mais
bordel!
Mais ces jeunes-là, que ce soit garçon comme fille, deviennent l'élite de notre société, puis il faut les encourager.
Ben
c'est
oui.
Des gens qui sont hyper bolés, qui fonctionnent bien, mais ça va être les médecins de demain
tant
qui
sont
vont
capables
faire
d'en
du sport
prendre.
Au travers.
Si tu manques quelques heures de mathématiques parce que tu fais des cours de hockey ou tu fais l'option sportive, puis que tu te rattrapes la fin de semaine, puis que le lundi, tu as un test, puis tu as 95%, pourquoi on t'empêcherait d'être bon puis d'exceller dans
exact.
Plusieurs domaines?
Ça t'apprend l'autonomie. Dans tout ça aussi, c'est pas juste des matières scolaires. Là. C'est d'avoir une discipline personnelle, une autonomie. Tu as des capacités qui sont développées. On avait, au secondaire, à partir du 3, 4, 5, une option où on pouvait voyager à l'international.
Ouais, c'est fun, ça.
Dans mon école de BOM, là, qui était dans la liste hier, il y avait ça. Mais c'était aussi réservé à ces jeunes-là qui pouvaient manquer 14 jours d'école mm-hmm. parce qu'il y avait la discipline d'aller aux récupérations. Il y avait la discipline d'avancer leurs cours avant de partir en voyage pour avoir la tête complètement vide. Des voyager et apprendre. Puis, hey, à cet âge-là, moi, j'ai fait de la Tunisie puis l'Italie parce que je me suis botté le cul. Puis, je m'excuse de l'expression, pour faire mes matières d'avance.
J'ai eu la chance. J'ai eu le même privilège que toi, en fait. Moi, je suis parti deux semaines à Washington. Mm. Puis, ça m'a ouvert les yeux sur le monde. Ce qu'on pouvait pas faire à l'époque où Internet n'existait pas. Moi, ça a pris mon petit monde qui était Saint-Fulgence, Chicoutimi-Nord, Jonquière, puis ça l'a fait exploser. Mm. Ça m'a amené une curiosité que j'avais pas, tu sais, d'aller visiter les monuments à Washington.
Une autre langue,
puis ainsi de suite.
Un autre paysage.
J'y allais avec des gens de toutes les autres régions administratives du Québec. Ça nous a permis d'échanger parce qu'on allait là en train, puis ainsi de suite. C'est une expérience inoubliable. J'essaie de m'imaginer si la direction de l'école m'avait dit « Ben là, Denis, il va falloir que tu choisisses. Là. Soit que tu prends tes maths fortes pour avoir ton diplôme, ou tu fais ton voyage. » C'est pas ça qu'on m'a dit. On m'a dit « Écoute, es-tu capable de revenir puis d'avoir des notes? » Oui. Ben vas-y.
Imagine les parents.
On s'en va dans deux semaines.
Tu sais, vous autres, les gars, on vous dit ça, là. Par rapport à vos enfants.
Moi, je change mon enfant d'école.
Ah, moi aussi, absolument.
Si mon enfant serait un Laurent Duvernay-Tardy, là, je change mon enfant d'école, tout simplement. Là.
Même sans aller jusque-là.
Les auditeurs ils disent merci de parler de notre école. Là. C'est un beau dossier. Je dis, lâchez pas.
Lâchez pas, puis tenez votre bout, puis on peut choisir son école. Je veux dire, ça se fait abandonner une école. Si votre enfant est motivé par le sport, puis qu'il atteint l'excellence ou qu'il atteint la réussite scolaire en passant par le sport, et que des gens atteints de crétinisme et d'idiotie sont pas capables de comprendre ça, allez magasiner ailleurs. Il y en a plein des programmes sport-études qui fonctionnent très bien. Il y a des programmes hors-études qui fonctionnent très bien aussi pour la musique, puis un paquet d'autres choses. Laissez les gens dans l'obscurantisme, puis allez éduquer vos enfants où est-ce qu'ils vont être le mieux, puis être utilisés à leur plein potentiel.
Quand ils vont perdre
c'est
de l'argent,
insultant, cette histoire.
Quand ils vont perdre de l'argent, ils vont bien se rendre compte que c'est con, puis ils vont vouloir changer, mais ça aussi, c'est problématique. Puis d'instaurer dans la tête d'un jeune, ne serait-ce qu'un seul jeune, là, que ça, c'est trop dans la vie, c'est lui bloquer pour ce jeune-là qui va l'absorber comme ça. Tellement de possibilités pour la suite. Là.
Écoute,
si un seul jeune dit, mais moi, je peux pas faire plein d'affaires en même temps, puis continue sa vie, ça m'écœure. Je trouve ça pitoyable.
Ce que je trouve hallucinant, parce qu'on était voir, c'est quoi la définition d'un conseil d'établissement là, sur le site du gouvernement du Québec. Il y aurait une vingtaine de personnes dans ce conseil d'établissement-là, à cette école-là, bien précisément. Là-dedans, tu as des professionnels, il peut y avoir des psychologues, il y a des parents d'élèves aussi, il y a des professeurs. Il était 20. Ça veut dire qu'il y en a plus que 10 qui ont levé la main pour dire, effectivement, les enfants vont devoir choisir entre les matières fortes ou le sport, mais pas les deux.
Ça a été 11 contre 9, là, de ce que je comprends. Ça a été le plus serré qu'un vote pouvait être. Mais il y en a quand même une majorité qui ont voté pour ça, pour des raisons qu'on ne s'explique pas, d'ailleurs. Moi, je ne l'ai pas vu, là, non, la raison. Là, l'explication du pourquoi, du comment. C'est trop d'heures dans une semaine. C'est à vous autres de déterminer ça.
Vous avez plus de place d'un cours. Il y a trop de monde qui veulent faire les deux. Y a-tu... Mais là, rendu là, c'est crétin un peu. Ouvrez d'autres, je ne sais pas.
Ils manqueront leurs cours. Ils travailleront plus fort les fins de semaine. Ils vont s'organiser. C'est du monde dégourdi. Ils sont bons en sport puis ils sont bons à l'école. Tu prends les meilleurs puis tu leur coupes les ailes. Ça n'a pas de sens.
Je leur montre, c'est ça la vie, finalement. Hein? C'est dégueulasse.
Midi 26, Denis Gravel, un gros merci.
Merci à vous autres.
Bon après-midi, on t'écoute à 14h dans Gravel dans le retour. Puis yes. Comment ça s'appelait ton journal étudiant?
Le Gravillon.
On a-tu encore des petites pages?
Denis Gravel dans le Gravillon.
Denis, genre, ma mère
a gardé tous mes textes.
Est-ce qu'on peut en avoir?
Faudrait...
Ton entrevue avec le député de...
Monsieur Fillion, c'est clair qu'elle l'a.
Oui, je l'ai. C'est mon premier texte à vie.
Est-ce que, s'il te plaît...
J'étais tellement nerveux.
S'il te plaît, amène-nous ça.
Faudrait que je le retrouve. Écoute, je l'ai peut-être...
Ma mère a ça, faudrait que je le retrouve.
J'en ai peut-être même un de scanné là, sur Internet, là, parce qu'il me semble que je m'étais déjà posé la question. Je vous reviens.
C'est excitant.
Merci, Denis. Salut.
Salut. Gravel.